Bonjour, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus sur le 106,6 MHz. Il est 14h passé de 2 minutes et vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière la vitrine, l'émission syndicale des syndicats étudiants et personnels de l'Université de Lille 1. Une heure d'émission d'actualité syndicale, politique et sociale, bien entendu. Comme toutes les semaines dorénavant, depuis, c'est donc la cinquième émission de Derrière la vitrine. Une émission donc encore récente, avec aujourd'hui autour de la table
Rémi Breton, donc pour Sud étudiant Lille. Je viens de l'université de Lille 2, donc en licence de sciences politiques cette année, et voilà, je représente Sud étudiant.
Nicolas, du syndicat Sud étudiant Lille également, de l'université de Lille 1.
Claire, personnel Lille 1 pour le SNESSUP.
Dominique, personnel Lille 1 pour la CGT Lille 1.
Magnifique, et moi-même, donc Jean-Marc, pour la CGT de l'Université de Lille 1. Alors, au programme de ce cinquième numéro de Derrière la vitrine, on fera un petit point sur le nouveau régime indemnitaire. Alors, ça peut sembler un petit peu compliqué, mais qui s'appelle RIFSEP. On va vous expliquer tout ça et pourquoi, à l'unanimité, les syndicats de la fonction publique ont voté contre, voilà, bientôt 2 ans, et pourquoi... pourquoi ce gouvernement qui est censé être à l'écoute des travailleurs, enfin censé en théorie bien sûr, ne les a pas écoutés, justement les travailleurs. Nous parlerons un petit peu de la communauté universitaire d'établissement et des élections qui auront lieu la semaine prochaine pour les conseils centraux. Et nous allons commencer par un petit point de l'actualité. L'actualité écoulée, il y a quelque chose Non, oh, il s'est bien passé des trucs quand même.
Ben, on peut parler quand même du CT, mais on a déjà un peu parlé la semaine dernière. Hein, donc le CT du 2 novembre, où il a été présenté justement le dialogue de gestion pour l'université de Lille 1.
Alors un petit mot tout de suite sur le CT. Ce qu'on appelle le CT, c'est le comité technique, est donc dans les établissements publics une instance, l'instance de négociation. Pour faire court, c'est là que les syndicats discutent avec l'employeur public, le chef d'établissement, et pour nous donc c'est le président de l'université, et le président présente tout ce qui a trait au collectif, les rémunérations, le temps de travail, l'organisation du travail, etc., les recrutements, les postes au concours, etc.
Et le régime indemnitaire.
Y compris le régime indemnitaire. Et donc là, tu veux faire un petit point sur les prochains postes, donc sur l'année à venir, ce qui a été présenté s'agissant des recrutements ou en tout cas des postes en 2016.
Ben, comme on va parler des RIFSEP, en fait, je voulais juste donner les résultats. Hein, les résultats, donc, c'est, le comité, en fait, n'a qu'un rôle consultatif, hein, mais quand même, c'est quand même assez significatif, hein, puisque l'ensemble des syndicats présents ont voté soit contre, soit se sont abstenus pour 2 personnes sur 10. Donc, c'était quand même un beau résultat, une unanimité contre le dialogue de gestion en général et en particulier de régime indemnitaire.
Et il n'est pas inutile de préciser que ce vote contre est en partie lié au fait qu'il y a la moitié des postes prévus qui sont supprimés. Donc pour 2016, ça fait 50 recrutements qui n'auront pas lieu. Donc c'est
aberrant.
C'est principalement ce qui motive ce vote unanimement contre.
Bien sûr.
Donc oui, tout ça, tous ces postes qui seront absents, je dirais, dans les comptes de l'université et sur le terrain, on essaye bien sûr de trouver des solutions pour motiver les personnels, comme s'ils n'étaient pas assez motivés sur leur lieu de travail, en mettant en place ce qui a été décidé, c'est-à-dire le RIFSEP. Alors le RIFSEP, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau régime indemnitaire qui doit tenir compte des fonctions des agents, des sujétions et de l'expertise. Et dans sa part, je dirais, dans une autre part, son engagement professionnel. Mais ça, on le verra après. Mais tout ce système qui a reçu un vote unanimement contre les organisations syndicales quand il a été présenté au niveau ministériel, va quand même être appliqué dans les établissements, puisque, comme l'a précisé Jean-Marc, le gouvernement, et de là, c'est les ministères qui l'entourent, sont complètement assis sur la position syndicale unanime. Donc, pour ce qui concerne notre université, Lille 1, le RIFSEP va se mettre en place. Il y a un travail qui a été commencé. Alors là aussi, en tant qu'organisation syndicale, on va mettre toutes les réserves sur ce travail. On nous a, je dirais, invités à participer à un comité de pilotage qui devrait normalement donner caution à ce que va apporter l'administration lors du comité technique. Mais je tiens quand même à rappeler qu'on est là en tant que observateur dans ce gros comité de pilotage, et surtout pour rappeler un peu les incohérences de ce nouveau régime indemnitaire.
On a parlé du comité technique, mais il faut aussi, donc, les syndicats vont être contre ce régime indemnitaire. Mais par contre, au CA du 6 novembre, hein, donc beaucoup plus récemment, le dialogue de gestion a été adopté par 14 voix pour, 6 contre, hein, toujours FSU, CGT, SNP, TES. Donc il y a eu un vote, par contre, qui permet d'appliquer finalement... Ce régime indemnitaire.
Juste un tout petit mot, c'est conseil d'administration, en effet, c'est fort utile de le préciser. Donc le comité technique, c'est exclusivement les représentants des personnels avec le président. Le conseil d'administration, c'est le président face à beaucoup de personnes nommées qui représentent le conseil régional, la mairie de Villeneuve-d'Ascq, enfin, ou la communauté urbaine, enfin tout un tas de monde, plus quelques représentants des personnels. Qui ne sont pas forcément d'origine syndicale. Ça peut être, ils représentent eux-mêmes ou des listes d'amis, de copains, des listes de présidents, des listes de machins, de trucs. C'est pour ça, d'où des différences de vote très marquées entre les votes en conseil d'administration et les votes en comité technique. Benoît,
c'est Rémi en fait.
Rémi, pardon, excuse-moi.
Il n'y a pas de souci. Du coup, ça fait naître une question sur mes lèvres. Ces voix pour, du coup, ce sont celles de quelles organisations?
Non, justement, il n'y a pas d'organisation.
Oui, d'accord, donc justement, oui. Okay.
Je vais apporter une précision.
C'est le directeur du FR.
Qui a voté pour au conseil d'administration? Ce sont. Alors, bizarrement, ce sont les gens qui ne seront pas impactés par ce régime indemnitaire.
Ouais. Attention, on peut préciser, parce que là, on parle. Claire parlait du dialogue de gestion, donc de l'adoption, non pas du régime indemnitaire, en tant que tel, mais bien du fait qu'on acte qu'il y a 50 suppressions de postes pour 2016 et que malgré tout l'université de Lille 1 va continuer à fonctionner et que grâce à, parce qu'on va mettre les postes ici, là, c'est ça, c'est le dialogue de gestion. Bon, Claire avait commencé là-dessus sur le point d'actualité, donc pas sur le RIFSEP formellement. Voilà, c'est un point de précision pour rester un peu clairement.
Ça n'inclut
pas le RIFSEP parce que le RIFSEP devra continuer sa route et sera formellement adopté à un moment donné en comité technique ou refusé en comité technique et puis formellement adopté à un moment donné en comité en d'administration. Mais ça n'a pas été le cas sur le dialogue de gestion. C'est bien le dialogue de gestion qui a été adopté le 6 novembre par le conseil d'administration. Et c'est ce même dialogue de gestion qui avait été retoqué par tous les syndicats, sauf une abstention. Voilà, c'était important. Et quant à savoir qui vote, justement, donc dans le conseil d'administration, c'est ça. Il y a une partie déjà qui sont des personnes nommées, qui en général votent avec le président, très souvent. Il y a les représentants des travailleurs et des étudiants. Je pense qu'au CA de Lille 1, il y a 6 étudiants.
5.
Il y a des représentants des professeurs d'université, des maîtres de conférences et des personnels administratifs et techniques. Et par contre, ce ne sont pas des syndicats forcément qui sont représentés. Et donc là, au CA, tous les syndicats ont voté contre. Tous les syndicats représentés, qui sont donc la FSU, le CNPTES et la CGT, ont voté contre. Et par contre, tous ceux qui ont voté pour, il y a des personnels élus, mais qui sont sur des listes que nous appelons des listes présidentielles. Mmh. Ce sont donc un genre d'écurie présidentielle, mais en dehors de tout statut, il n'y a pas de statut déposé en mairie, en préfecture, quoi que ce soit. Y a pas, des fois, il y a des assos, mais pas toujours. C'est pour ça qu'on appelle ça des listes de chers collègues. Voilà. Le but est, ils sont là pour une chose en priorité, c'est d'élire le président. Après... ils viennent pas, ils causent pas, mais avant tout, parce que le président est élu par le conseil d'administration. Voilà. Et donc, ils représentent, en fait, ils votent toujours avec le président. Et là, ce qui est intéressant, et j'en termine avec ça, c'est que il y a deux, les listes présidentielles, il y a eu deux écuries présidentielles pour deux candidats, il y en a un seul qui a gagné. Mais toutes les écuries présidentielles votent ensemble, malgré tout. Alors qu'elles se sont tapées dessus, dans un affrontement totalement factice, mais très violent. Et alors qu'après, hop, depuis 3 ans maintenant, elle vote toujours exactement la même chose.
C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que du côté étudiant, on reconnaît exactement la même chose. Il y a effectivement des listes syndicales aux élections. Déjà, il faut rappeler que les étudiants au conseil d'administration, c'est pas super représentatif. Hein. Il y a donc le conseil d'administration de Lille 1, il me semble que c'est 27 membres, dont 7 personnalités nommées, non pas élues. Donc, comme tu le dis, c'est les gens qui sont nommés par le président ou le conseil d'administration, donc qui, par définition, votent comme la majorité, comme le président. Et il y a 5 étudiants sur les 20 sièges élus. Donc, 5 étudiants, ça fait pas beaucoup, vous en doutez. Et en plus de ça, il y a donc des listes syndicales et des listes non syndicales, donc... Et là, par contre, c'est encore plus rigolo que, comme tu dis, les écuries présidentielles, puisqu'effectivement, il y a ce côté, comment dire, des espèces de petites listes corpo de profs où, voilà, on s'arrange entre copains, et puis on essaie de défendre son bout de gras, Et bon, on le voit au conseil d'administration depuis un moment. Mais chez les étudiants, alors déjà, il y a beaucoup de listes anti-syndicales où voilà, les syndicats c'est très mal et donc du coup, on monte des listes contre les syndicats. Et après, il y a les listes étudiantes qui sont montées par l'administration. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une saloperie. Puisqu'on se retrouve avec des gens qui vont se retrouver dans une élection, qui vont se retrouver élus. Pas parce qu'ils se disent je vais défendre quelque chose, pas parce qu'ils se disent voilà, mon boulot c'est de défendre les étudiants, mon boulot c'est d'essayer de faire vivre la vie politique de l'université, etc. Mais parce que il y a tel prof, tel responsable administratif, etc., qui nous a dit ah bah tiens, écoute, ça serait bien de monter ce machin là, tout ça, on peut driver tout ça, on peut donner un peu d'argent pour lancer une campagne, peut-être même que du coup bah, on peut réussir à te financer une thèse ou t'inscrire en master, y a pas de problème, etc. Et c'est quelque chose que. Comme on l'a dit, voilà, l'année où il y a eu cette élection extrêmement fratricide entre deux écuries. J'aime vraiment bien l'expression d'écurie présidentielle, puisque c'est assez proche de la réalité, vraiment, ça illustre assez bien la chose. Et on a eu comme ça une espèce de. Voilà, de listes étudiantes qui sortent de nulle part et des gens dont on. Voilà, qui ont négocié leur soutien pour renouveler le titre de séjour, qui ont négocié une thèse, qui ont négocié une inscription en Master 2, etc. Et le jour de l'élection, bah, ils votent pour un tel ou tel président qui a monté la liste. Et le lendemain, on les voit plus. Voilà, c'est des gens bah, qui disparaissent en nature par définition, en fait, puisqu'ils sont là pour rien du tout. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait. Après, c'est des conséquences qui sont extrêmement pratiques. C'est qu'après, quand il s'agit de défendre les intérêts des personnels, quand il s'agit de défendre les intérêts des étudiants, bah, y a des syndicats qui sont là, qui essaient de faire le boulot. Puis après, tout le reste, toutes les listes antisyndicales, toutes les listes corporatistes, etc., eh ben là, par contre, c'est nos abonnés absents, et puis on vote comme d'un seul homme pour l'administration. Et je pense que les gens qui nous écoutent actuellement, ils doivent comprendre ça, que ce soit des étudiants ou des personnels enseignants ou personnels non enseignants. C'est qu'a priori, pour défendre ses conditions de travail, pour défendre ses conditions de vie, etc., eh ben, ce qui reste quand même le plus efficace, ça reste quand même de voter pour les listes syndicales, à mon sens.
Oui, Rémi, tu
Nicolas, cette fois.
On va. Oui, ce que tu rencontres, ce que tu décris en termes de. Je dirais de listes qui se présentent à ces élections. Et on est confronté, nous aussi, en tant qu'organisation syndicale, comme ça, à des listes avec des noms qui surgissent de presque nulle part, qui prennent jamais la parole, qui, en tout cas, pas à notre connaissance, et qui on retrouve aussi, comme ça, le jour des élections, des listes faites de briquet de broc et qui viennent discréditer un peu l'action syndicale qu'on peut mener toute l'année sur le campus. Et. Ce qui est inquiétant, c'est que ces listes sont de plus en plus à la mode. Parce que ça plaît, parce qu'ils ont un discours. Mais dans la réalité, au quotidien, on les voit le jour de l'élection et après, c'est fini. Et les gens qui ont fait le choix de voter pour ces listes, quand ils essayent après de trouver des solutions à régler des problèmes du quotidien, mais il n'y a plus personne, parce que la personne est partie. Parfois, elle peut avoir... je n'irai pas jusqu'à dire que ça leur a facilité un déroulement de carrière ou une promotion, mais...
Pour les étudiants, on peut le dire. Voilà, devant micro, mais, j'ai aucun problème.
C'est peut-être une étape qui reste à franchir ou qui est peut-être déjà franchie, mais bon... Après, ces gens-là n'existent pas, et puis ils n'ont pas véritablement de programme. Ils se collent directement derrière une liste d'écurie présidentielle, histoire d'apporter des voix le jour J, et après c'est fini, on ne les entend plus, ou bien pour venir un renfort de voix, ou des choses comme ça. Mais là, il ne faut pas qu'on s'inquiète, puisque comme on va rentrer bientôt en période d'élection présidentielle, et ça va ressurgir, un peu comme le printemps. Quoi.
Pour aller encore plus loin, enfin... Il y a un moyen en fait très simple pour les gens qui nous écoutent de voir un petit peu, d'apprécier un petit peu ce qui se passe là-dessus. Je crois qu'il y a le SNESUP hein, qui fait des comptes rendus des conseils d'administration. Sud étudiants, on le fait également. Donc après, on n'a pas forcément la même vision des choses, donc on ne met peut-être pas les accents sur les mêmes questions, mais au moins on essaie de rendre un compte sur ce qui se passe en conseil d'administration. Je ne sais pas si la CGT le fait tout ça, mais au moins voilà, les gens peuvent aller voir sur le site du SNESUP ou du Sud étudiants.
CGT, en fait, on est élu sur une liste ensemble, ce qui fait que
c'est vrai.
Tu fais bien de le faire remarquer.
Et les gens peuvent aller voir et donc voilà, on rencontre l'un comme l'autre de ce qui se passe et des votes sur les différents points et pourquoi on vote ça. Et assez régulièrement, on peut le voir, voilà, toutes les décisions sont prises à l'unanimité, souvent au moins 3 voix, c'est-à-dire les voix CGT, FSU Sud, ou 4-5 voix, etc. Et l'immense majorité des décisions sont prises comme ça, un espèce de gros consensus entre toutes les listes qui sont là, étudiantes, personnelles, etc., qui sont là pour défendre rien du tout, en fait. Et qui, je pense qu'on pourrait regarder, mais le 90% sans doute des décisions qui sont prises, L'ensemble de ces listes-là non syndicales vote pour systématiquement comme l'administration sans se poser de questions.
Bah, juste deux points sur lesquels je voulais réagir, parce que tu as soulevé des problèmes tout à fait intéressants. Alors, il y a beaucoup de décisions, ceci dit, qui souvent font l'unanimité. Il faut quand même aussi le préciser, parce que ça n'appelle pas de commentaires particuliers. Mmh. Par contre, les décisions beaucoup plus politiques qui visent à dénoncer le manque de moyens, le manque de postes, des choses comme ça, qui nécessitent des combats et éventuellement des mises en minorité, c'est là que effectivement il n'y a que les organisations syndicales qui ont finalement l'indépendance vis-à-vis du pouvoir en place pour oser aller contre des choses qui sont présentées par le président. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai également pour les travailleurs, en particulier pour les BIATS, qui eux sont en situation de dépendance hiérarchique, non pas avec le président, mais avec le directeur général des services, et qui donc, ceci dit, là représentent leurs collègues, donc doivent s'exprimer contre ce qui se pose. Et si vous n'avez pas une organisation organisée, solide derrière vous, et que vous savez que vous parlez au nom de cette organisation, c'est très difficile d'aller contre son supérieur hiérarchique. Ce sont des points très importants. Je voulais revenir sur ce que tu dis sur l'instrumentalisation des étudiants, qui est un problème extrêmement grave et en effet est malheureusement constaté. Mmh. C'est une particularité propre aux étudiants pour le coup, parce que là les personnels ne sont pas directement instrumentalisés à ce point-là, encore que c'est vrai que parfois, des professeurs d'université vont voir des personnels administratifs et techniques pour leur expliquer que quand même, ça serait bien. On a vu poindre des listes de cette nature aussi en échange. Mais c'est beaucoup moins grave qu'un jeune étudiant qui débarque, qui voit débarquer un directeur de composants du FR de labo, qui lui explique gentiment. C'est vrai que c'est proprement scandaleux. Et je voulais préciser que là-dessus, il y a des organisations syndicales étudiantes. Sud syndique les étudiants. La CGT ne syndique pas les étudiants, c'est un point important, parce qu'elle syndique uniquement les salariés. Et c'était historiquement justement pour ne pas se mêler, la position de la CGT, c'est de dire aux étudiants de décider, eux, leur position. Et donc la CGT soutient les organisations syndicales étudiantes en toute indépendance. C'était un point que je précisais. Et sur les listes, on pourrait résumer toutes les listes à Lille 1. C'est construire ensemble une ambition pour l'engagement. En fait, il y en avait qui s'appelaient... Ils ont toujours des noms flamboyants comme ça. Il y en avait construire, ambition. Et il y en avait une qui s'appelait engagement. Alors là, celle-là, elle fait mal parce que l'engagement est devenu un mot. C'est devenu... Ça fait bien sur un CV de dire je m'engage pour... Or, malheureusement, on est dans tout le contraire on est loin de ce qui fonde l'engagement, en particulier l'engagement syndical.
Bon, le SNESSUB soutient aussi les étudiants. Hein.
C'est scandaleux,
c'est ignoble, je dirais.
C'est de leur laisser décider, c'est oui, ça,
de
aux étudiants.
Manipuler les étudiants pour obtenir des votes, c'est absolument ignoble. En tout cas, je dénonce.
Et que ce sont si des pratiques, malheureusement. Des pratiques, non, mais on les connaît. Hein,
c'est même plus que de la manipulation, c'est échanger un soutien contre un financement de bourse, de thèse, des trucs comme ça. On a vu des choses extrêmement scandaleuses cette année.
Il y a une réalité derrière tout ça. Et nous aussi, parfois, il faut être réaliste. Et les organisations syndicales, des fois, sont pris entre deux feux parce qu'on nous demande de choisir entre le pire et le moins pire et on est obligé de faire des choix.
Ah, tu pour le vote du président, tu veux
oui,
dire.
Oui, par exemple. Oui, sur ce point-là, bon, on s'est quand même retrouvé dans une situation un peu particulière où on nous présentait le pire et le moins pire. Et on peut faire, moi, personnellement et syndicalement, on en a fait le constat. Ça ne s'est pas déroulé comme on aurait pu le penser et par rapport à nos attentes pour les personnels. Et je n'ose même pas imaginer pour les étudiants, parce que, comme on l'a rappelé dans le dialogue de gestion avec les emplois qui ne seront pas mis en place, qu'on appelle gentiment gelés, surgelés, ou je ne sais trouver le terme, mais... La réalité, elle est là, quoi. Et il faudra quand même, sur l'avenir, à réfléchir de comment on fait. Parce qu'à nous mettre à chaque fois dans une position à dire si c'est pas ça, ça peut être pire, ça, c'est une position. Et alors, bien sûr, les conseils d'administration. Oui, les conseils d'administration, ils sont composés tels qu'ils sont. C'est pas nous qui avons fait les statuts. Maintenant, il y règne l'ambiance qui doit y régner après ces élections et on essaye d'avancer comme ça.
Très bien, merci Dominique. Je propose une petite pause musicale avant d'aborder le cœur de l'émission qui est donc cette nouvelle politique indemnitaire pour l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique d'État, donc des fonctionnaires de l'université.
pause musicale avec c'est Claire qui propose cette programmation musicale. C'est Hocus Pocus Smile, un petit mot avant qu'on le lance. Non, on y va, allons-y. Allons-y gaiement.
Pour la bonne humeur.
Voilà, pour la bonne humeur. Un instant. Oh baby, come on. No. Oh. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Duh, moi c'est sourire. Well, baby, come on. Duh, I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Moi c'est sourire que je l'ajoute à ma collègue. Un plus dans ma smile deck avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese. Car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi te tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Madame, je zoome, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Garde-vous, développer les négatifs de ce moment positif. Fixer, 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 fixer l'objectif. Comment ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais dis my XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Duh. I can't live without it. No, I can't. I need that one. Not twice, yeah. Not three, baby. I need that one, not twice, not three, baby. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well, baby, come on. I can't live without it. No, I can't. I need that one, not twice, not three, baby. Smile. Voilà, c'était Smile, Hocus Pocus, et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 MHz, campuslille.com, sur Internet. On passe à la deuxième partie de l'émission, consacrée à cette nouvelle politique indemnitaire, le RIFSEP. Nous vous expliquerons ce que veut dire cet acronyme absolument affreux. Après, Dominique va commencer pour en tracer les grandes lignes de cette chose, de cette usine à gaz, qui n'en est pas une d'après le ministère, mais on va vous expliquer pourquoi c'en est une quand même.
Oui, donc le RIFSEP, on en a déjà, on l'a déjà un peu détalé, l'appellation, ce nouveau régime indemnitaire qui va rapidement regrouper tout ce qui est existant pour se fonder en une seule appellation. Mais ça, c'est l'aspect qu'on nous présente gentiment. Mais derrière tout ça, il y a cet esprit de mettre en compétition les personnes, même si on dit que c'est pas directement fixé à des personnes, mais plutôt à des compétences et une activité. Ça va certainement, comme dans tous ces systèmes de mise en place de primes, à la compétitivité et avec le... Moi, j'en fais plus, je le fais mieux que toi. Ça va casser déjà le peu qui reste, je dirais, d'ambiance de travail, où il y avait encore un semblant de solidarité. Et ça peut que se répercuter sur le fonctionnement d'université et sur les, et en particulier sur les usagers. Je vois, il y a nos camarades étudiants qui sont là. Déjà que leurs conditions sont passées pas très marrantes d'étudier tous les jours. Alors si les personnels, ils ont à faire face dans leur quotidien des personnels qui sont là en disant « moi, j'ai le droit à la prime dans ces conditions-là, toi, tu ne l'as pas », ça va être compliqué. Et puis ça va certainement... Ça va diviser plutôt que de rassembler. Alors on...
Est-ce que tu laisses sous-entendre que ça serait déjà une prime au mérite, comme on nous en entend parler ces derniers jours dans une petite mairie de la région parisienne?
Non, on n'en est pas encore.
Je m'étonne. Ça existerait déjà, tout ça pour ça.
Mais oui, mais c'est des mots qui reviennent à la mode. Mérite, c'est des mots qui reviennent comme ça. Là, on efface d'autres pour en mettre à la place. Mais toutes ces choses-là ne durent qu'un temps. Et le travailleur, il doit faire, je dirais, toute sa vie professionnelle, elle ne se fait pas sur une semaine ou sur 15 jours. Elle se fait sur une carrière et comme tout le monde le sait, il y a des hauts, il y a des bas. Et ça, je vois pas comment ce genre de prime va réguler tout ça. Alors, si un jour on sera bon, ça va devenir comme des sportifs. Il y aura je ne sais pas comment, ou un chrono comme ça se faisait dans le temps dans les usines, où on mesurait le travail.
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Dominique, parce que là, on rentre vraiment dans cette logique. En fait, c'est le paroxysme de la compétition dans toute sa splendeur. C'est justement ce qu'on retrouve, par exemple, avec l'IDEX, avec la mise en compétition des universités. Alors, je sais pas si, enfin, vous connaissez sans doute. Depuis janvier 2015, les universités ont le droit de s'inscrire à ce programme de l'IDEX, l'initiative d'excellence, donc. Et en fait, le but, c'est de montrer que l'université en soi apporte les meilleurs savoirs, les meilleures compétences et qu'elle est mieux que toutes les autres. Donc allez-y, montrez que votre université est la plus belle et la plus grande, parce que justement elle est déjà des dotations supérieures aux autres, et comme ça ensuite on en donnera moins à celles qui galèrent et qui justement ont des compétences et des savoirs de proximité. Donc c'est-à-dire entre guillemets des universités de pauvres, quoi.
Un petit mot, tout à fait. On a déjà parlé d'IDEX, hein, ceci dit,
et, oui, c'est, sais,
et ce rappeler. Régime indemnitaire. Juste, on n'a pas retracé l'historique, mais l'équipe Sarkozy avait fait cette prime de fonction résultat, qui était déjà une prime au mérite. Et sur IFSEP, c'est donc le gouvernement Hollande qui le met en place, en expliquant qu'il a enlevé la prime au mérite sarkozyste. Et en fait, il remet sa prime au mérite à lui, qui s'appelle donc le RIPSEP. C'est pour ça que j'insistais sur cette prime au mérite, dont on nous rabat les oreilles sur ce qui se passe dans cette mairie, alors qu'en fait, ce régime indemnitaire qui a été adopté depuis plus de 2 ans maintenant, est en train de se mettre en place, et a commencé à se mettre en place en 2015, va continuer à l'être en 2016 et 2017, eh bien, un mécanisme au mérite beaucoup plus profond, et c'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer, et ce qu'a essayé d'expliquer Dominique, qui vraiment va beaucoup plus loin dans cette définition du mérite. Alors après, le mérite prend d'autres noms. L'excellence pour l'IDEX, enfin ça prend tout un tas de noms. Alors que De Gaulle disait, un fonctionnaire c'est fait pour fonctionner. C'est bien connu, c'est-à-dire qu'il est fait pour faire son boulot. Et il est pour ça qualifié. Ça veut dire qu'il a un niveau de diplôme. Et il a passé un concours qui garantit l'égalité d'accès à la fonction publique pour tous les citoyens. Et ce concours garantit que, ben voilà, sur 1, 2, 3, 10, 20 candidats, ben, on en a pris 1, 2, 3, 5, parce que, et voilà, et c'est ça qui forme, ce qui fonde sa rémunération sur des bases absolument objectives de qualification et de concours. Et c'est bien ça la base. Ajouter le mérite au milieu de tout ça, sous-entendu que, évidemment, derrière on entend, ouais, parce que les fonctionnaires, c'était tous des grosses feignasses, c'est pas des méritants,
bien
etc.
Entendu.
Évidemment, la petite musique, on l'entend derrière. Alors qu'un fonctionnaire, rappelons-le, c'est quelqu'un qui a forcément un concours qui correspond à sa qualification, un diplôme qui correspond à sa qualification, et qu'il a passé un concours. Voilà. Et qu'ensuite, il continue à se former. Ce sont des choses absolument essentielles qui fondent la fonction publique. Et sur IFSEP, est un coin terrible dans ce principe fondateur de la fonction publique d'État, qui sépare, rappelons-le, le grade de l'emploi. Le grade, c'est le concours qu'on a passé. L'emploi, c'est là que l'employeur public nous dit d'aller. Il nous dit, toi, tu vas bosser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu bosses ici. Le jour où l'emploi disparaît, le poste disparaît, le fonctionnaire reste titulaire de son grade et il ira bosser ailleurs, là où on lui aidera de bosser. Il y a une situation de dépendance hiérarchique très très forte.
C'est assez terrible, en fait, puisque, enfin, comme le dit Rémi, on est en train d'assister à une espèce de mise en concurrence à tous les niveaux d'enseignement supérieur. Donc on a eu, voilà, avec l'IDEX, la mise en concurrence pour aller chercher les financements, avec le package de lois qu'on a depuis la loi LRU, la loi Pécresse, la loi Fioraso, etc., une mise en concurrence entre les établissements. On a des... On, ça se développe en plus avec la pénurie budgétaire, une forme de mise en concurrence entre les différentes filières, entre les différents labos, etc. Et là, voilà, on continue d'avoir un stade en plus. Voilà, maintenant, c'est la mise en concurrence entre les différents personnels de l'université. Mais c'est quoi la vision de... Enfin, c'est quoi ce service public, en fait? Est-ce qu'on est encore dans une logique de service public? Et je pense qu'on peut se poser la question. Comme tu le disais, en fait, non seulement, voilà, on commence à développer des conditions de travail un petit peu pourries quand même pour les personnels non enseignants, mais ça a des conséquences qui sont radicales, en fait, pour les étudiants. Déjà, nous, enfin, il y a déjà de moins en moins de postes, etc. Donc, de plus en plus de difficultés à faire tourner l'université quand on veut s'inscrire, quand on a besoin de contacter l'administration, etc. Souvent, on galère, souvent, voilà, on patauge entre les différents services administratifs. Et là, en plus, on va rajouter la variable. Bon, ben, en fait, les fonctionnaires, ils vont se tirer dans les pattes parce qu'ils doivent essayer de récupérer la bourse, la prime mérite à la fin. Et on marche sur la tête, on marche sur la tête.
Oui, tu fais bien de le préciser, comme l'a dit Jean-Marc, le statut de fonctionnaire, il existe, l'accès dans l'emploi, dans la fonction publique, il existe, il y a un cadre très précis. Et on essaye aujourd'hui un peu de casser tout ça, parce que maintenant tout est appelé à devenir une marchandise suivant les grandes lignées de ceux qu'on a laissé diriger, je dirais. Et de ce côté-là, alors, comme tout est une marchandise, ben, il faut comparaître et ce ne sera pas forcément bénéfique pour le service public et la qualité de l'enseignement. Et ça, ce n'est pas leur souci aussi bien. Et puis bon, aujourd'hui, on nous présente ça, le RIFSET, bien sûr, on va dire, on dresse entre nous un tableau noir de la situation, mais on n'est pas des gens qui lisent dans les boules de cristal, mais on nous a présenté il y a quelques temps, comme tu le rappelais, les rues et compagnie, c'était les rues, les RCE pour nos établissements, c'est-à-dire les compétences élargies, gestion de la masse salariale, ceci, cela, c'était l'idéal. On ne comprenait pas comment on avait pu tourner auparavant toutes ces années pour faire fonctionner. Et aujourd'hui, on se retrouve devant des difficultés. Il y a des universités qui ont de gros problèmes budgétaires en termes de masse salariale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recrute, on augmente la précarité, des choses comme ça. Et puis pour revenir sur le RIFSET, bon, au-delà de son appellation abstraite, il y a deux parties. Il y a le côté où on voit les gens sur ce qu'ils font et leurs compétences, ceci, cela. Je rappelle que tout ça, ce ne sera pas décidé par les personnels. Ils ont des supérieurs autour d'eux qui vont dire, lui, il semble qu'il fait un peu plus que l'autre, donc voilà, autant. Mais il y a aussi une part qui est un peu plus négative, qui s'appelle le CIA, ce qu'on pourrait comparaître... un peu un 13e mois dans les entreprises, ou une sorte
complément
de
indemnitaire annuel, voilà, faut bien préciser.
Donc, faut bien préciser, oui. Voilà. Et ça, c'est déjà en place sur l'université de Lille 2, qui je rappelle, les universités sont appelées à fusionner. Hein, ce sera sans doute l'objet d'un autre débat. On nous promet une chance, une opportunité, une dynamique qui va s'installer. La présidence et bien sûr l'administration n'a pas fait ça comme un pari pour l'avenir, quoi. Mais dans la réalité, le CIA est déjà en place dans certains établissements. Et sur l'INA, pour l'instant, c'est pas dans l'air du temps. Les organisations syndicales ont obtenu l'engagement que l'administration ne le mettra pas en place. Mais ça, c'est clairement à la fin de l'année, si toi t'en as fait plus, t'as des objectifs, t'auras quelque chose de plus. Et voilà où on risque, vers quoi on va aller après l'IFCE, l'indemnité de fonction et suggestion.
Donc concrètement, je voulais donner quelques chiffres sur cette enveloppe, parce que donc une enveloppe est prévue de 300 000 euros tout de même. Par contre, on n'a pas eu d'information sur la répartition entre les différentes catégories A, B, C. Ça, ça avait été demandé par le SNESUP au CT. Et on n'a pas eu de données là-dessus.
Point de précision, c'est 300 000 euros supplémentaires pour le millier d'agents fonctionnaires BIATS, donc personnel administratif et technique concernés. C'est 300 000 en plus, parce qu'autrement, l'enveloppe indemnitaire est bien supérieure. Bien supérieure. C'est quelques dizaines de... Je ne veux pas m'avancer, mais l'enveloppe générale est conséquente. Simplement, ils vont abonder histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards en 2016 et faire passer, si je puis dire, la pilule. Mais on va revenir sur cette cartographie des emplois, puisque le cœur de l'atteinte est bien là. On a bien dit la séparation du grade et de l'emploi, c'est-à-dire que vous êtes payé à hauteur de votre qualification, de votre concours, quel que soit l'emploi que vous faites. Parce que c'est à votre employeur public d'en décider. Or là, la prime va dépendre de l'emploi que vous occupez. Et selon que vous atterrissez ici ou là, vous aurez une prime plus ou moins grosse. Et donc on est bien dans une logique de séparation. Et donc il y aura des emplois qui vont être attractifs parce qu'on en a décidé autrement. Les emplois dans ces machins d'excellence, pourquoi pas, ça pourrait être un critère.
Alors, ça va dépendre de la taille aussi des composantes. Hein, donc il y a une donnée supplémentaire.
Pour les personnels administratifs, selon qu'on administre, déjà, une grosse, ouais, une petite, un petit, voilà, labo, un gros labo.
Et donc etc. là, il y a déjà eu des effets de clientélisme, hein, de tout la part de la direction, puisque donc, certains responsables administratifs ont fait du lobbying pour obtenir une remise à niveau, hein, de leur catégorie. Et ils en ont laissé quelques-uns sur le carreau, mais donc il y a eu déjà, donc on voit ce qu'on a évoqué ensemble, hein, la déstructuration de la solidarité entre les personnels. C'est déjà effectif, hein, j'ai eu un exemple de ce type.
On a toujours pas donné la signification, donc je vais la donner, de RIFSEP, cet acronyme. Exactement. Absolument imbitable, mais et pourtant il veut dire quelque chose. Il veut dire accrochez-vous au barreau, j'enlève l'échelle. C'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Voilà ce que veut dire RIFSEP, vous avez compris. Alors, après, le ministère, dans sa grande sagesse, a publié quelques slides en prenant les. Donc, où il y a quelques phrases simples, sous-entendu, les fonctionnaires, c'est des cons, je vais leur expliquer simplement. Contre des idées reçues, en fait, c'est simplement ce que nous disons, nous, organisation syndicale. Donc, c'est n'écoutez pas les syndicats, syndicat caca, c'est bien connu. Donc, il y en a un en particulier. Qui dit.
La parole est au ministère, donc.
Qui dit. Le RIFSEP est une usine à gaz, en effet, parce que du coup, il va falloir faire une cartographie des emplois, etc. Mettre tout le monde dans des cases. J'ai déjà expliqué, les cartes machin, mais on a ajouté des groupes dans les catégories. Donc tout ça, il y a eu des arrêtés, des publics. Et c'est pas fini, ça commence. Eh bien, non. Il dit non, c'est totalement faux, ça n'est pas une usine à gaz. Vous n'y comprenez rien, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on vous a mal expliqué. Nous, on vous explique. Et il explique simplement que. Toutes les petites primes qu'il y avait de ci, de là vont être rassemblées dans une seule grosse prime qui s'appelle le RIFSEP. Ce qui n'est pas totalement faux, encore qu'il y a plein d'autres primes. Il y a plein de primes qui sont encore en dehors du RIFSEP, de toute façon, parce que l'administration, la technostructure déchaînée est toujours très créative dans ce domaine pour que personne n'y comprenne rien à ce qui se passe. Donc là, elle simplifie, mais elle complique tout de suite juste après. C'est une grande règle. Mais ce RIFSEP en lui-même est par nature compliqué puisqu'il faut définir chaque emploi, les cartographier, donc une cartographie de chaque emploi. C'est la fonction publique d'État, donc des 2 millions, je pense, de fonctionnaires d'État doivent être mis dans une case, absolument, chacun des fonctionnaires, individuellement. Et Dominique a bien parlé de ce complément indemnitaire annuel sur la base donc d'un entretien annuel où, face à ton chef, seul, face à face, comme dans un western, alors chacun sait qui a fait un peu d'études politiques dans sa vie ou de syndicalisme, sait que justement la relation entre un subalterne et un chef et son supérieur n'est jamais symétrique par nature, et donc un entretien à deux, c'est toujours un moment assez difficile, surtout quand il y a des choses désagréables qui sont dites. Alors après tout, ça c'est la règle. Rappelons que depuis, dans le statut général, toute une panoplie de sanctions est possible contre le fonctionnaire jusqu'à la révocation. On dit qu'il y a là, pas du tout, s'il fait une connerie, il est révoqué, le fonctionnaire, il peut être révoqué, ne l'oublions jamais. Et par ailleurs, il a une carrière qui est modulée. Celui qui c'est depuis dans le début du statut, certains ont des progressions de salaire bien plus rapides que d'autres. En partant au même point, il y en a certains qui finissent bien plus haut. Et ça, c'est depuis toujours, et c'est dans le statut. Donc tous ceux qui disent « Oh là 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 là, tout le monde est payé », c'est totalement faux. Il y a déjà une carotte et un bâton pour le fonctionnaire qui sont consubstantiels au statut. Ajouter une prime dans le bazar, c'est vraiment un message exclusivement politique. Quant à savoir si les organisations syndicales sont toujours contre, non, pas du tout. On a des propositions, nous, en tout cas la CGT, mais je pense en fait la FSU, a à peu près le même point de vue qui se résume à ça. On demande l'intégration de toutes les primes dans le salaire, indiciaire, donc on retourne, emploi, qualification, grade, qualification, concours, et donc suppression de toutes les primes et intégration de ces primes dans le salaire. Et ensuite, l'application stricte, tranquille, du statut.
Bien sûr, avec... cette histoire de primes, c'est... Parce que, comme l'a précisé Jean-Marc, le fonctionnaire a normalement un déroulement de carrière plus ou moins rapide suivant comment il est noté, puisqu'on en est là. C'est une forme de notation. Et je dirais aussi par rapport au concours auquel il peut se présenter, c'est-à-dire des concours qui seraient éventuellement ouverts. Il faut quand même rappeler le système.
Ils sont ouverts. Le but, c'est de lutter contre l'injustice et l'arbitraire. Toute la fonction publique vise à lutter contre l'arbitraire du recrutement, l'arbitraire de la carrière, car la carrière d'un fonctionnaire est décidée de façon en commission paritaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours un représentant des travailleurs qui siège pour voir ce qui se dit.
C'est ça le point important, pour que le patron ne fasse pas tout seul dans son coin. C'est ça,
sauf que des postes de fonctionnaires, il va y en avoir de moins en moins quand même.
Et le... ça c'est une autre question. Ça c'est une prime, le RIFSEP, c'est une prime qui touche les fonctionnaires, et que les fonctionnaires en l'état. Mais en effet, après...
Et pour ce qui est l'entretien avec les responsables de service, ce jour-là, il n'y aura certainement pas de représentant du personnel.
Non, mais tout... c'est même prévu, c'est explicitement prévu qu'il n'y en
aura pas du tout. Et alors on essaye de pallier à tout ce déroulement de carrière qui est bien précis dans les statuts. On essaye de pallier à donner des primes à certaines personnes qui vont rien résoudre. Et on peut craindre, sur le ton de la présentie, qu'un jour le salaire sera composé d'une partie plus importante de primes que de régime d'indemnitaire par rapport à l'indice. Quoi. Ça risque de basculer. Et comme l'a expliqué Jean-Marc, il y aura une forme d'attractivité pour certains postes, voire même des duels sur le campus pour récupérer le poste d'un tel. Prise d'état de santé, je ne sais pas où on peut... Que où ça peut aller.
Ça peut aller loin. Un point très très important, les primes ne comptent pas pour la retraite des fonctionnaires, pour la pension des fonctionnaires. C'est quelque chose qui est très caché. On dit ouais, les fonctionnaires, ils ont tous 60 ans, etc. Les primes ne comptent pas. À la fin, le pensionné de la fonction publique, il touche uniquement, c'est calculé sur sa base indiciaire. Donc s'il y a plus de la moitié de salaire qui va en prime, ça veut dire que déjà, sa pension, c'est 75%, 50%. Donc on est déjà à moins de 30% de taux de toute pension à la retraite. C'était un point important. Un dernier tour de table sur le RIFSEP avant de faire une pause musicale et de passer à la commu. Je pense que Dominique, tu veux conclure, non?
En tant qu'organisation syndicale, nous on participe, en tant qu'élu, surtout représentant des personnels, voilà comment il faut présenter les choses. On participe à toutes ces réunions et pour la CGT, on informe les personnels à travers nos lettres d'info, on essaie de les tenir au courant de ce qui les attend. Alors bien sûr, on a eu des réponses qui nous sont arrivées sur notre boîte syndicale où... Bon, c'est très très minoritaire, c'est même de l'ordre de 1, enfin, qui trouvait ça très bien, qui pense que c'est la meilleure façon de récompenser les gens qui travaillent, enfin, tout ce discours qu'on peut entendre et qui est à la mode de enfin, ça... Mais bon, l'avenir, on verra l'avenir, si sa position sera la même, une fois que tout ça sera mis en place.
Merci Dominique. Une pause musicale avec un titre que Dominique nous propose.
Oui, alors une simple présentation. Un morceau de Bertrand Betch, qui est un auteur-compositeur et interprète. Quoi. Et ça s'appelle Les Vents Contraires. C'est un peu ce qu'on rencontre en ce moment. Quoi. Mm-hmm. On est un peu dans des vents contraires.
Nous avons affronté les vents contraires, nous avons lutté, tout nus dans la boue, nous avons marché sur des bris de verre, nous nous sommes frottés aux caresses des fous et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout et nous tenons. Nous avons reçu des jets de pierre, nous nous sommes battus contre la terre entière. Nous avons perdu tous nos soldats, nous avons perdu jusqu'au sens du combat. Et pourtant, nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout. Et nous tenons le coup. Nous avons rampé sous des nuits gelées, les pluies ont rongé nos cieux délavés. Nous avons traversé le pont des noyés, des rêves enragés nous ont déchirés. Et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout et nous tenons le coup. Nous avons couru jusqu'à perdre nos pas, nous n'avons jamais su prendre le bon train. Nous n'avons jamais cru que nous avions le choix, nous sommes devenus des cris dans le lointain. Et pourtant nous sommes toujours debout. Nous sommes encore debout. Et nous tenons le coup. Et nous tenons le coup.
Et voilà, c'était donc... Laurent Butch.
Bertrand Butch.
Bertrand Butch.
Ça, il sera pas content, mais bon, je lui dirai pas.
Les, c'était les vents contraires. Les vents.
Et voilà. Et vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM, sur l'émission Derrière la vitrine. Derrière la vitrine, c'est l'émission des syndicats étudiants et personnels des universités lilloises. Et on est ici en présence de camarades de la CGT, de la FSU et de sud-étudiants. Pour ces dernières minutes d'émission, on va se pencher rapidement sur un sujet qu'on a déjà abordé lors de précédentes émissions, qui est la COMUE, la communauté...
Université d'établissement.
Merci, voilà. Donc on va écouter ce que Rémi a à nous dire là-dessus.
Voilà, donc très rapidement, puisque il n'est pas à l'ordre du jour de parler de la COMUE, on va sûrement avoir une émission plus tard sur ce sujet. Donc qu'est-ce que c'est la COMUE ? C'est les 6 universités de Lille, hein, le regroupement, plus la centrale et les mines ainsi que la Cato. Et également à l'intérieur du lot l'ESPE, donc l'enseignement supérieur des enseignants. Et voilà. Voilà. Ainsi que le collège doctoral. Donc en fait, le but de la Cato, c'est de coordonner un peu l'ensemble des universités qu'elle regroupe. Et alors, grande aberration de notre commu en ce qui nous concerne, c'est qu'elle intègre la Cato à l'intérieur, Cato qui est une université privée. Donc c'est le seul exemple qu'on a en France de ça. Et c'est absolument révoltant puisque la Cato va... par ce biais-là, pouvoir toucher encore plus d'argent public qu'elle en touche en ce moment. Et alors que les frais d'inscription pour la Cato sont absolument exorbitants. Hein. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais...
Juste une petite précision, en fait, on ne peut pas dire université. Hein.
Oui, non, oui, c'est vrai.
Elle usurpe le terme université.
Oui, il faut rappeler on va rappeler l'historique de la Cato. l'historique, je ne la connais pas exactement, mais bon, je sais bien que ça a été créé il y a très très longtemps par des grands industriels pour... mettre en place un peu un enseignement catégoriel, quoi, qui allait vers un certain type de population qui en avait les moyens afin de...
C'est surtout qu'en fait, c'est un monopole public. Il n'y a que les établissements publics qui peuvent s'appeler université en France. C'est la règle, c'est la loi en France. Et c'est pour ça aussi que la collation des grades, c'est-à-dire la délivrance des grades d'enseignement supérieur, appartient à l'État. Et par l'intermédiaire des universités, accorde les diplômes. Mais c'était ça l'origine de... Et pour ça que université catholique, c'est bien une usurpation. Elle doit passer des accords avec les universités publiques pour ses diplômes, parce que cette collation des grades, qui est en voie d'extinction, et la commune va être un élément très fort d'explosion de ce grand principe républicain de collation des grades, puisque, on le voit bien, c'est la commune qui aura la main sur les formations et donc, in fine, sur les diplômes. Déjà, le processus d'habilitation est en voie de profond changement. Or, et là, on revient à la fonction publique, mais beaucoup plus généralement à toutes les conventions collectives en France, elle s'appuie sur les diplômes. Et un diplôme, pour qu'il soit valable dans une convention collective sur tout le territoire national, doit avoir une envergure nationale. Et on voit bien qu'avec cette régionalisation, si on arrive à faire éclater, si le patronat arrive à faire éclater cette collation des grades, c'est-à-dire ce monopole de l'état de délivrance des diplômes, alors il a gagné sur toute la ligne, parce que c'est toutes les conventions collectives qui vont exploser en vol, et toutes les rémunérations seront à la gueule du client sur le modèle du RIFSEP dont on a parlé juste à l'instant. C'est quelque chose de... C'est au cœur même de l'organisation du travail en France.
Oui, pour ceux qui... effectivement, les conventions collectives, c'est très attaché au code du travail, et ça réglemente, je dirais, en plus, le code du travail, avec des éléments supérieurs qui doivent, pour les professions bien spécifiques, les conventions collectives de la métallurgie, de la chimie, des choses comme ça. Et effectivement, comme le dit Jean-Marc, la convention collective, la rémunération est la base et le diplôme. Après une période d'essai dans une entreprise, le diplôme doit faire... On ne peut pas payer quelqu'un qui est en dessous d'un diplôme bien précis. Ça, c'est une règle. Et la convention collective le précise quand elle représente un système... d'entreprises, comme je, par exemple la métallurgie. Mais toutes ces choses-là qui paraissent, qui certains dénoncent, qui paraissent compliquées, le code du travail, les conventions collectives, mais tout ça, c'est fait aussi pour, je dirais, protéger les travailleurs, parce que sinon, on pourrait être amené à faire accepter n'importe quoi aux gens qui se retrouvent sur le marché du travail, aux jeunes, aux anciens. Tout ce cadre que certains disent aujourd'hui, c'est très lourd, c'est contraignant, tout ça. Non, les conventions collectives sont là, et comme elles sont tout le temps supérieures au code du travail, elles ont toute leur utilité, et en particulier pour les qualifications, pour pas qu'un ingénieur soit payé comme quelqu'un qui arrive avec un diplôme de niveau 5, des choses comme ça. Tout est cadré, tout est là bien précis. Et le fait de pouvoir distribuer des diplômes un peu comme ça, ça risque de contrarier tout ça.
Déstructurer, oui. Ouais. En plus, la Cato, là, en fait, a refusé certains assesseurs pour le vote. Donc, vous évoquiez que le vote sur l'île 1 se situera au niveau du bâtiment réflexe, à l'autre bout du campus, effectivement.
En effet. Hein.
Mais à la Cato, donc, il y aurait, on a dit 15 bureaux de vote, ce qui est énorme. Mais donc, le SNESUP s'est vu refuser des assesseurs au prétexte qu'ils n'appartenaient pas au bureau de vote. Donc, ça, on va faire appel, mais. C'est quelque chose d'inadmissible.
Ouais. Comme tu le soulignes, du coup, nos auditeurs sont peut-être pas au courant. Mais donc, cette COMUE, en fait, elle va être gérée par des instances, des espèces de super conseils qui vont gérer ce machin. Et les élections pour élire les représentants étudiants et personnels dans ces conseils auront lieu la semaine prochaine, le 19 novembre, toute la journée. Et donc, c'est l'ensemble des étudiants et personnels des établissements qui ont été cités juste avant par Rémi qui vont pouvoir voter. Donc, Lille 1, Lille 2, Lille 3, Artois, Valenciennes, Littoral, l'École des Mines, l'ESPE, il m'en manque un. Je sais plus lequel encore. Oui, la Cato, déjà, oui, voilà.
La Cato, il y a les écoles. Et les écoles.
Les écoles.
Le CNRS, les EPS, le CNRS et l'ENRIA.
Voilà, donc, si vous êtes personnel, enseignant, non-enseignant ou étudiant dans une de ces universités, vous êtes amené à voter le 19 novembre.
Un point très important sur le 19 novembre, parce qu'on ne l'avait pas vu passer, les bureaux de vote vont fermer à 16h. Alors que d'ordinaire, c'est 17h. Donc, il faudra aller voter bien avant.
On l'a rappelé sur notre acte.
Merci. Et comme on vient de le faire remarquer, un des gros enjeux de cette élection, c'est d'être en capacité de défendre le service public. On est dans une communauté d'établissements qui vient intégrer un établissement privé confessionnel dans cette commune. En intérêt dans ces conseils, c'est ce qu'on disait en début d'émission, avoir des gens qui seront en mesure un petit peu de défendre les valeurs du service public, que comme tu disais, qui seront en mesure de défendre le principe de réglementation des diplômes qui induisent un cadrage clair en fait des conventions collectives, etc. qui permettent c'est vachement important, qui permettent de défendre le principe de laïcité de l'enseignement supérieur. Voilà, quand on intègre un établissement privé confessionnel, il y a cette question là qui se pose quand même. Est-ce qu'on reconnaît les diplômes du Vatican, etc. C'est des questions qui se posent aujourd'hui pour la COMUE. Défendre l'intérêt d'avoir des frais d'inscription qui sont pas encore trop élevés dans l'université, puisque la Cato qui arrive, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on peut payer un diplôme 1000, 2000, 3000, 4000 euros, voire plus à l'année? Donc on a intérêt, moi je pense, à voter pour des élus. Qu'on soit personnel ou étudiant, pour des élus qui seront en mesure un petit peu de défendre ces valeurs de service public. À mon avis, c'est les listes syndicales. Donc, vous trouverez, selon le collège où vous votez, des listes Sud, des listes CGT, des listes FSU. Je pense que c'est le bon choix pour aller voter ce 19 novembre.
Je suis tout à fait d'accord, en effet, de bien choisir pour qui vous allez voter, et de préférence pour des listes qui ont des comptes à rendre et qui rendent des comptes et qui ont pignon sur rue, donc des listes d'organisations syndicales. Rappelons qu'il y a la pluralité syndicale en France, quand on dit c'est absolument essentiel et que c'est bien eux qui doivent représenter les travailleurs. Il y a suffisamment d'organisations, c'est très important. Par contre, il ne faut pas survendre, bien préciser que les instances, les conseils centraux de la commune ont été solidement verrouillés par la puissance publique. Il n'y a en conseil d'administration de la commune qu'il y a plus de la moitié, 50% des membres du CA sont nommés cette fois-ci. C'est pas 5 sur 20, c'est pas 7 sur 27.
C'est exactement 30 sur 60.
C'est 30 sur 60, voilà. Et les 30 autres sont des représentants des personnels et des étudiants, mais déjà la moitié. Ce qui veut dire que même si toutes les organisations syndicales combatives raflent tous les postes, ce qui ne sera pas le cas, ils ne pourront pas établir de majorité permettant de contrer les volontés de l'État, des présidents d'établissements, etc., etc. C'est totalement verrouillé, donc c'est bien une illusion de démocratie. Par contre, évidemment, il faut savoir, faut pas croire ceux qui vont vous dire qu'ils vont raser gratis demain, etc. Par contre, avoir des représentants qui dénoncent ce qui s'y passe, qui savent rapidement ce qui se passe
porter la parole et ensuite construire le rapport de force là où on peut le construire, mais pas survendre ces instances
oui,
qui n'ont de démocratique,
oui.
qui sont très fort peu démocratiques.
Oui, il s'agit d'énoncer des pratiques et on peut emporter quand même l'unanimité si les pratiques sont trop... trop nuisibles.
Face au représentant du recteur, on m'étonnerait fort que...
On voit bien que le rapport de force, il est clairement pas en notre faveur, donc qu'est-ce qu'on pourra faire à
vous
l'intérieur
êtes pessimiste.
Ah non, mais...
ah, le rapport de force, il a basculé ces derniers temps. Je le croise, mais je sais pas où je voudrais le trouver.
En effet.
Donc il a un peu basculé. Mais bon, c'est ça va après les élections. Pour parler de ces élections, je crois qu'elles représentent de mémoire 10 000 personnels et plus de 100, une centaine de mille d'étudiants. Quoi. C'est
12 000 personnels et 97 000 étudiants, voilà. D'après les listes électorales du 14 qui n'étaient pas à jour.
Alors c'est ça qui est rigolo, c'est que oui, c'est d'après les listes électorales qui n'étaient pas à jour. Par exemple, il y a un collège doctorant, comme voilà, la commission recherche. Il y a des estimations qui donnent plus de 1 000 doctorants sur toute la région, donc sur tous ces établissements. Les listes électorales donnent 350 doctorants sur les listes. Donc voilà, donc pour monter des listes, voilà, il y a un tiers des doctorants seulement qui sont inscrits, qui pourront aller voter, qui peuvent s'inscrire sur les listes. Donc c'est pour dire à quel point c'est quand même une farce démocratique, ce truc, c'est ridicule. Voilà.
Vous voyez, Claire, une dernière intervention, on va clore parce que l'heure arrive. Pardon, Rémi.
J'aurais juste aimé ajouter une petite précision sur l'attaque que forme la commu par rapport au master et aux formations de proximité. Hein. Le risque, c'est qu'il n'y ait plus qu'à Lille des formations en master et en doctorat et que dans les universités entre guillemets de pauvres, eh ben, elle s'épuise.
Enfin,
elle soit
le premier cycle, la licence.
Oui, tout à fait,
c'est une crainte tendance, partagée par beaucoup.
Voilà.
Très bien. Derrière la vitrine, ça se termine. C'est quasiment terminé d'ailleurs. Donc merci à vous d'avoir été fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine. Même endroit, même heure, 14h sur les ondes de Radio Campus. On vous laisse entre les mains solides de la musique classique, classique sans complexe, de 15h à 16h sur Radio Campus. Restez bien entendu fidèles à nos programmes et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et
salut.
Bonne semaine.
Salut.
Au revoir.
Allons-y.
Allez, vite, 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 bande de salopards.
C'est quoi ça?
Allez, debout là-dedans!
C'est quoi ça?